Laudetur Jesus Christus.
Propos belliqueux de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah envers Israël et envers, et c'est une nouveauté, la République de Chypre. Il est prêt à porter la guerre jusqu'en mer Méditerranée. Les enfants palestiniens, première victime de la guerre entre Israël et le Hamas. Il y a les victimes dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Reportage dans ce territoire palestinien qui n'est pas épargné donc par le conflit. Vladimir Poutine est au Vietnam aujourd'hui, mais hier, le président russe a signé un accord de défense mutuelle avec la Corée du Nord, renouvelant et renforçant ainsi l'alliance entre Moscou et Pyongyang. Que se passe-t-il exactement au Burkina Faso? Les informations sont confuses, mais il semble bien que la junte militaire au pouvoir soit en difficulté face aux djihadistes, ce qui provoque des tensions en interne au sein de l'armée. Journée mondiale du réfugié, nous irons dans le nord du Cameroun, région où sévit Boko Haram. Nous entendrons le témoignage d'un prêtre local sur la dure réalité à laquelle sont confrontés ses paroissiens. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. La guerre des mots au Proche-Orient. Alors qu'Israël a multiplié ces derniers jours les déclarations laissant entendre que le Hezbollah pourrait bien devenir sa prochaine cible, menaçant même le Liban, le chef du mouvement chiite libanais a prévenu lui hier qu'il n'y aurait aucun lieu sûr en Israël si une guerre de grande envergure éclatait entre son parti et l'État hébreu. Hassan Nasrallah a également menacé Chypre pour la première fois. Les détails à Beyrouth de Paul Khalife.
C'est le discours le plus musclé de Hassan Nasrallah depuis le début des combats à la frontière libano-israélienne le 8 octobre. Le chef du Hezbollah a affirmé que son parti, soutenu par l'Iran, combattra sans limite ni plafond si Israël lançait une guerre de large ampleur contre le Liban. Ses hommes pourraient même passer à l'offensive et pénétrer en Galilée. « Attendez-nous par voie terrestre, maritime et aérienne », a-t-il lancé aux Israéliens. Hassan Nasrallah a indiqué que les effectifs du Hezbollah dépassaient largement les 100 000 hommes, précisant que les ressources humaines dont ils disposent sont suffisantes, même en cas de guerre totale. Le Hezbollah, a-t-il ajouté, n'a utilisé qu'une partie de ses armes, et certains types de missiles, de roquettes et de drones sont fabriqués au Liban. Il dispose aussi d'une liste de cibles stratégiques et des moyens nécessaires pour les atteindre dans n'importe quel coin d'Israël. Hassan Nasrallah a laissé entendre qu'en cas de guerre, son parti prendrait pour cible les ports et les navires israéliens. Ce qui attend Israël en Méditerranée sera d'une très grande ampleur, a-t-il dit. Le chef du Hezbollah a menacé Chypre de représailles si les aéroports de l'île étaient mis à disposition de l'aviation israélienne en cas de guerre totale. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Un peu de répit judiciaire pour l'ex-président de la Banque centrale du Liban, Riyad Salamé. Le parquet de Munich en Allemagne a annulé en effet le mandat d'arrêt international lancé contre lui en mai 2023. Le fait qu'il ne soit plus en fonction élimine le risque qu'il dissimule des preuves, expliquent les juges. La justice allemande n'a pas renoncé pour autant à enquêter sur celui qui est soupçonné de corruption dans plusieurs pays. Israël, à cause de son armée et de ses forces de sécurité, est placé sur la liste noire des Nations Unies des pays ayant commis des violences graves contre les enfants dans une zone de conflit. Il y a certes la bande de Gaza où l'essentiel des victimes sont des civils et en tout premier lieu des enfants, mais il y a aussi, et on en parle beaucoup moins, la Cisjordanie. Et dans ce territoire palestinien, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le nombre de mineurs tués a connu une hausse spectaculaire. Le reportage sur place d'Inès Gilles.
Sana et Khaled Al-Zaim vivent la hantise de tous les parents. Aux prémices du mois de mars, leur jeune fils Mohamed a perdu la vie. Âgé de seulement 13 ans, il a été tué par un soldat israélien dans le camp de réfugiés de Jalazoun, en bordure de Ramallah où la famille habite. Son père, Khaled, les yeux rouges de fatigue, raconte.
Ils ont tiré dans son cœur, dans son ventre et deux fois dans ses jambes. C'est un enfant, ils l'ont exécuté de sang-froid.
Depuis le début de la guerre, les violences contre les mineurs palestiniens ont explosé. Entre le 7 octobre 2023 et le 3 juin 2024, 124 enfants ont été tués en Cisjordanie, selon les Nations Unies. À Kalindia, située entre Ramallah et Jérusalem, en Cisjordanie, les familles pleurent aussi leurs enfants morts. Au début de la guerre, Yasser, 17 ans, a été tué par un soldat israélien alors qu'il partait s'acheter à manger. Son oncle, Mohamed, craint aujourd'hui pour la vie de ses propres enfants.
Je ne peux pas dire à ma femme, envoie notre fils Ahmad faire les courses. Je veux quitter la Palestine. Je ne peux pas rester dans ces conditions.
Les violences israéliennes contre les Palestiniens sont rarement suivies d'enquêtes indépendantes et de sanctions, même quand les victimes sont des mineurs, et surtout lorsque le présumé coupable est un soldat de Tsahal. Inès Gilles, Ajalazone et Kalandia, pour Radio Vatican.
Toute vérité n'est pas bonne à dire. Le porte-parole de l'armée israélienne pourra méditer ce proverbe. Il a été rappelé à l'ordre par le gouvernement israélien pour avoir affirmé dans un entretien à la télévision israélienne 13 que dire qu'on va faire disparaître le Hamas, c'est jeter de la poudre aux yeux du public. Hamas est une idéologie, a-t-il déclaré. On n'élimine pas une idéologie. Vladimir Poutine parti reste une relation élevée au niveau d'alliance entre la Russie et la Corée du Nord. C'est Kim Jong-un, le leader nord-coréen, qui l'a expliqué après avoir signé hier un partenariat stratégique avec le président russe. Moscou et Pyongyang sont tombés d'accord pour mettre en place une défense mutuelle en cas d'agression. Ce traité ravive ainsi l'alliance ancienne qui prévalait du temps de l'Union soviétique. À Séoul, les précisions de Clément Le Breton.
Un traité historique qui remplace tous les précédents, la base de nouvelles relations au long terme entre les deux pays, commente Vladimir Poutine à la sortie de cette rencontre. Si les détails de ce traité stratégique restent confidentiels, il s'agit pour les deux pays de montrer le sérieux de leurs relations. Poutine a remercié Kim Jong-un pour son soutien à la guerre qu'il mène en Ukraine. Le leader nord-coréen a assuré de son aide inconditionnelle à la politique russe. En plus d'une possible intervention russe ou nord-coréenne en cas de conflit chez l'un ou chez l'autre, ce traité va vraisemblablement faciliter les transferts de technologies ou d'armes entre Moscou et Pyongyang. L'objectif, selon les experts, est de renforcer le poids du camp anti-occidental sur la scène internationale. Au-delà du sujet militaire, Vladimir Poutine a offert une limousine à son nouvel allié Kim Jong-un, un cadeau en violation des sanctions internationales dont les deux chefs d'État ont annoncé vouloir s'en échapper le plus possible. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
Et après la Corée du Nord, Vladimir Poutine cherche maintenant l'appui du Vietnam, lui aussi ancien allié du temps de l'URSS. Le président russe a déjà remercié Hanoï pour son approche équilibrée sur l'Ukraine dans une tribune publiée dans le journal du Parti communiste vietnamien. Les deux pays partagent une lecture similaire de la situation en Asie-Pacifique, estime encore le président russe. Mais que se passe-t-il exactement au Burkina Faso depuis plusieurs jours? Difficile de le savoir. La junte militaire donne l'impression en tout cas d'être en difficulté. Le 11 juin dernier, une attaque terroriste aurait fait une centaine de morts parmi les forces armées du pays. Certains auraient été pris en otage. Des civils aussi figureraient parmi les victimes. Des mercenaires russes de Wagner seraient arrivés entre-temps. Et le chef de la junte n'est pas apparu en public. À cela s'ajoute un mystérieux tir de roquette la semaine dernière dans le centre de la capitale, non loin du palais présidentiel. Certains ont ainsi même parlé d'une mutinerie, ce qui a été démenti par l'armée. Les éclaircissements à Ouagadougou de notre correspondant Lamine Traoré.
Tout est parti le mercredi 12 juin dernier quand un tir de roquette a atterri à la télévision nationale. Le tir provenait de la garde présidentielle. Il est qualifié, le tir, d'incident par les canaux de communication officiels du gouvernement et par la suite des rumeurs sur une éventuelle exfiltration du président Traoré. L'opinion se demande où il est rentré. Il fera deux apparitions, la première à la télévision nationale donnant son sang et la deuxième lors de la prière de la Tabaski le dimanche dernier. Mais cela n'a pas suffi à arrêter les rumeurs. Le mardi dernier, l'état-major a démenti dans un communiqué des rumeurs sur les réseaux sociaux faisant état de mouvements d'humeur et de mutinerie dans certaines casernes militaires. Une situation bien confuse car le gouvernement n'a fait aucune réaction. Plusieurs sources annoncent une prise de parole du capitaine Traoré ce jeudi, suivie d'un conseil des ministres. À suivre donc. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
Faire en sorte que l'Afrique fabrique les vaccins dont elle a besoin, c'est l'objectif du Forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinale. Il est co-organisé par la France, l'Union africaine et l'Alliance du vaccin. Il a lieu aujourd'hui à Paris. $1 milliard devrait être annoncé au cours de la journée pour permettre aux fabricants de vaccins en Afrique d'augmenter leur production. Pour le moment, seuls 2% des vaccins utilisés sur le continent y sont produits. « À l'occasion de la journée mondiale du réfugié célébrée ce jeudi, le pape a souligné hier lors de l'audience générale que nous sommes tous appelés à accueillir, promouvoir, accompagner et intégrer ceux qui frappent à notre porte. Je prie que les États assurent aux réfugiés des conditions de vie humaines et facilitent les processus d'intégration. François avait aussi consacré ses intentions de prière pour le mois de juin à ceux qui fuient leur pays. Ce matin, nous nous penchons à cette occasion sur le nord du Cameroun, où il sévit depuis plus d'une dizaine d'années Boko Haram. La région de l'extrême nord subit toujours les incursions multiples de cette secte terroriste. À Touro, village situé à la frontière avec le Nigeria, le groupe terroriste sème encore la terreur. Le curé de la paroisse Saint-Luc de Ndoubam-Touro, l'abbé Basile Tegamba, déplore cette crise sécuritaire qui perdure. Ce jeune prêtre témoigne de la dure réalité à laquelle est confrontée la population. Les habitants vivent là-bas la peur au ventre.
Boko Haram pille les maisons, vole, parfois au passage tue des gens. La semaine dernière, la gendarmerie de Touro a été attaquée par ce groupe, il y a un gendarme qui est mort. Nous avons beaucoup de villages aujourd'hui qui ne sont plus habités. Beaucoup de maisons abandonnées, détruites. Beaucoup de structures sociales aussi qui sont détruites, notamment les écoles. Soit elles sont détruites, soit elles sont abandonnées. Pour ce qui est de notre paroisse, par exemple, nous avons 4 écoles privées catholiques. Il y a une qui est fermée, il y a une qui est en cours de fermeture parce que toute l'année, là, on a constaté une baisse drastique des effectifs dans les classes. On est quitté de presque 1000 élèves il y a 2-3 ans dans cette école à 200 quelques cette année. Je ne suis pas sûr qu'à la rentrée prochaine, on va rouvrir cette école, sauf si entre-temps la situation s'améliore.
C'est quoi la réalité des attaques?
Nous vivons avec la crainte permanente. Nous sommes toujours en alerte. Hein. On ne peut pas dormir profondément. Par exemple, je dors avec des militaires à la paroisse. Il y a beaucoup qui ne dorment pas dans leur maison, qui dorment sur des montagnes. Ils partagent les grottes là avec les reptiles. En journée, ils viennent dans leur maison travailler comme maintenant c'est le début de la saison de pluie. Ils partent au champ. À 14h, tout le monde replie vers là où il y a plus de sécurité. On fait le va-et-vient chaque jour. Là où c'est quand même plus calme, les gens continuent de vivre. Il y a donc cette instabilité permanente qui anime la crainte, l'incertitude et côté de ça, il y a beaucoup d'autres maux qui gangrènent la vie sociale, notamment l'accès difficile aux denrées alimentaires. Il y a aussi l'accès difficile même aux services sociaux de base, les hôpitaux qui sont pas à proximité. Parfois, il faut se déplacer très loin pour trouver un centre de santé.
Ce climat d'insécurité a-t-il des répercussions directes sur votre paroisse?
On est à peu près à 5540 chrétiens baptisés au jour d'aujourd'hui. La paroisse est divisée en 9 secteurs. Actuellement, 4 sont strictement fermés. La paroisse est diminuée à 50%. Les communautés ecclésiales vivantes, on en avait 34, mais avec les secteurs qui sont partis, on n'atteint même pas 20.
Mais qui est réellement l'ennemi?
Très bonne question, mais qui n'aura pas de réponse. Parce que c'est vrai, on a dit que c'est un groupe terroriste islamique, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui on peut parler de cela en voyant ce qui se passe, parce que Boko Haram s'est métamorphosé si bien aujourd'hui que Boko Haram est difficile à identifier. Si Boko Haram était un cancer, Boko Haram a atteint le niveau de métastase. Le mal est généralisé.
Quelle action mène l'Église catholique pour combattre le phénomène?
Ça fait partie déjà de nos axes de pastoral de façon permanente, puisque déjà dans le diocèse et donc dans toutes les paroisses, il y a ce qu'on appelle le comité paroissial de promotion humaine qui regorge plusieurs autres petits comités qui travaillent un peu dans le développement rural, un peu dans l'épanouissement de l'homme. On a perdu nos chrétiens aussi dans ces incursions, dans ces attaques. C'est du devoir de l'Église de leur offrir les funérailles chrétiennes. Nous accentuons nos homélies sur l'espérance. Il y a l'accompagnement des victimes de façon plus proche à travers la Caritas, des aides humanitaires dans tous les sens. Il y a l'appui en AGR, des activités génératrices de revenus pour ces victimes, notamment les déplacés. Il y a tout l'accompagnement psychosocial. Et moi, personnellement, ce que j'ai fait déjà, c'est de raviver le cœur des fidèles, exhorter les paroissiens sur l'espérance.
Interrogé par Augustine Asta, le père Basile Tegamba à Touro, dans le nord du Cameroun, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte X. Excellente journée à toutes et à tous.